Que le Seigneur soit béni, il a mis sur mon cœur, en rédigeant en fait un thème qui ne m'était pas venu à l'esprit auparavant. Non pas que ce ne soit pas quelque chose que j'ai déjà dans le cœur, mais en parcourant le texte hier pour le message, eh bien j'ai été arrêté par l'attitude des femmes au cœur sanctifié. Je vous lis l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Je vous lis aussi dans Marc, au chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. C'est le moment de la crucifixion, et les acteurs du procès de Jésus sont méchants. C'est le mot le plus simple pour dire l'ensemble de la situation. Il est entouré de méchants. La croix, c'était un supplice horrible, augmenté des ricanements et autres insultes envers le crucifié. Toutes les crucifixions devaient susciter cette atmosphère de hargne, le supplicié étant vilipendé. C'est si facile de se déchaîner sur autrui, sans souci envers sa propre conscience. D'ailleurs, ça commence avec le harcèlement scolaire, n'est-ce pas, dont on en commence à prendre un peu plus conscience, mais qui n'est pas d'aujourd'hui. Les émissions de télé-réalité utilisent cette tendance naturelle. Oh, ce n'est qu'un jeu, pense-t-on. Mais en attendant, on se fait quand même bien du mal par les critiques acerbes. Tout cela, c'est détestable, tout comme la vie lorsque l'on avance dans la profession, dans différentes relations, même d'autres formes de brimades, de façons de rabaisser les autres, etc. C'est la tendance du cœur humain qui est mauvais en lui-même. Alors la crucifixion du Fils de Dieu a été la pire en ce qui concerne les moqueries et les insultes. Tous les mauvais sentiments se sont déversés contre le juste. D'ailleurs, je vous lis juste dans Luc, déjà, lors du procès, 22, verset 63, « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. » Un peu plus loin, avec Hérode, qui aurait bien voulu voir Jésus accomplir quelques miracles pour se glorifier, certainement. Eh bien, Jésus ne lui a rien répondu. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, qui l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. D'ailleurs, il y a une précision dans le texte. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà un des effets du mauvais cœur de l'homme qui cherche sa cible et qui va déverser tout son venin sur cette cible. C'est la scène, c'est le contexte, c'est tout ce qui est mauvais dans le cœur de l'homme qui s'exprime. Cependant, un groupe de femmes se distingue. Elles connaissent bien Jésus pour l'avoir servi durant tout son ministère. Elles se tiennent à l'écart, mais ne peuvent certainement pas détourner les yeux de la scène, touchées au plus profond de leurs sentiments, de leurs émotions. Trois principales sont nommées, dont Marie de Magdala. On confond Marie de Magdala avec la pécheresse, toutefois Luc la présente autrement au chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, les versets 2 et 3. Les douze étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Combien Marie devait être reconnaissante de cette délivrance. Sept démons qui l'habitaient et qui avaient dû la laisser tranquille. Elle est toujours restée attachée à Jésus. Elle est systématiquement mentionnée dans le récit. Alors que le nom des autres femmes varie, Marie de Magdala est toujours mentionné. Mais c'était le cas aussi de plusieurs autres femmes d'avoir été guéries et délivrées par Jésus. Et comme il est beau de voir des femmes mettre leur vie et leur bien à la disposition du Seigneur, parce qu'elles savent ce qu'elles lui doivent. Ces femmes, nous les trouvons déjà sur le chemin du calvaire, au chapitre 23 de Luc, les versets 26 à 31. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ces femmes se frappaient la poitrine, un geste qu'on a un peu oublié dans notre société moderne, mais qui était très significatif et qu'on va retrouver d'ailleurs après la crucifixion. Jésus détourne ces femmes de leur chagrin immédiat et parce qu'il leur annonce un autre chagrin qui concernera toutes les mères. Alors elles ont probablement intégré ces paroles et se sont tenues à distance, plutôt que de peut-être se précipiter en cherchant à s'interposer au moment où l'on clouait le Seigneur, où on dressait la croix. Marie de Magdala est d'ailleurs encore mentionnée par Jean près de Jésus, avec Marie et Jean lui-même. Mais on aurait pu assister à ce genre de scène, où ces femmes n'auraient pas pu supporter de voir le Seigneur à ce point méprisé et en souffrance. Mais là, elles se sont tenues à l'écart, elles observaient, et nous les retrouvons après la mort du Seigneur, lors de la dispersion, dans Luc toujours, donc du même chapitre, versets 48 et 49. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. On voit qu'ici l'atmosphère a changé. Toute la haine et la vindicte est tombée au spectacle de la mort du Fils de Dieu, alors que les ténèbres sont venues, alors que il y a même eu un tremblement de terre à ce moment-là, alors que le centenier a dû constater que celui-ci était véritablement fils de Dieu. Et après la mort, toutes ces mauvaises émotions sont tombées, l'atmosphère a changé, et les gens de la foule aussi se frappent la poitrine en se retournant chez eux. Mais les femmes ne s'en retournent pas. Manifestement, dans un premier temps, les disciples non plus. Tous ceux qui connaissaient Jésus étaient là, qui se tenaient à distance. Et le temps que Joseph d'Arimathée, cet homme bon et juste, suivi d'ailleurs par Nicodème, selon l'Évangile selon Jean, le temps que Joseph d'Arimathée fasse sa démarche auprès de Pilate, elles sont toujours là. Versets 55 à 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, à chaque fois cette insistance, sont bien ces femmes-là qui ont bénéficié du ministère de Jésus et qui se sont mises à son service. Ces femmes accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Et que se passe-t-il ? Le lendemain du sabbat, elles ne sont pas distraites et à nouveau occupées à leurs occupations habituelles. Elles se rendent au sépulcre. En fait, elles veulent encore servir leur maître. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. À cette fois, elles veulent servir leur Seigneur dans la mort. Elles sont toujours là pour lui. Mais c'est là que Dieu avait autre chose pour elles. Et pour nous tous, au lieu de pleurer encore et d'essayer, on peut dire, de conjurer les effets de la mort par des baumes, elles reçoivent les premières. On peut dire le véritable choc émotionnel le plus fort qui soit, Christ est vivant. Mais tout n'est pas dans l'émotion. Leur intelligence est également mise à contribution. Les versets 6 à 8. Il n'est point... verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, les anges, deux hommes resplendissants, en habits resplendissants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. L'ange fait appel à ce que le Seigneur lui-même leur avait dit, à l'enseignement qu'elles avaient reçu. Nous ne devrions jamais oublier l'enseignement du Seigneur. Il est notre base pour absorber les sentiments, les émotions qui nous traversent dans les grandes séquences de notre vie de foi. Ici, la libération, la délivrance, le salut proclamé, mais ailleurs, la persécution, lorsque Jésus s'entretient avec les disciples, Jean chapitre 16, verset 4, et qu'il leur annonce les temps de persécution, « Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Et verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Le Seigneur nous a toutes enseignées d'avance. Et nous pouvons faire le lien. Et nous devons, parce que naturellement peut-être nous oublions, mais nous devons faire le lien entre ce qu'il nous a annoncé et ce qui se réalise pour nous. Alors, du fait de leur privilège, elles ont aussi été les premières à faire face au rabat-joie. Versets 9 à 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il vit que les linges qui étaient à, ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Toutes imprégnées de la bonne nouvelle, elles n'ont pas dû s'arrêter à la réaction d'incrédulité des apôtres. Et donc, le principal apôtre les a en quelque sorte justifiés puisqu'il n'a pas voulu rester dans le doute. Et tout a suivi pour que la bonne nouvelle transforme encore nos vies aujourd'hui. Jésus était véritablement ressuscité. Les femmes qui aimaient Jésus, qui le servaient depuis le commencement, ont été les premières évangélistes. Certes, la suite des événements met le focus sur la relation du Seigneur avec les 12, avec la responsabilité qui leur incombera d'initier l'enseignement public. Mais les femmes sanctifiées ne disparaîtront pas. Elles sont toujours là après l'ascension dans les Actes, chapitre 1. Le Seigneur vient de monter au ciel Et voilà qui nous retrouvons, versets 13 et 14. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Depuis ce temps-là, rien n'a changé. De siècle en siècle, les saintes femmes, les femmes sanctifiées par le Seigneur, guéries, délivrées. Oui, mes sœurs, vous en faites partie. Eh bien, ces femmes ont continué à admirer et servir leur Seigneur. De toutes conditions, il y avait des femmes de distinction, la femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, et on voit dans le livre des Actes des Apôtres, il est fait plusieurs fois mention de ces femmes de distinction, comme des femmes dont la condition sociale n'est pas mentionnée, mais qui avaient bénéficié du ministère de Jésus. Alors, reconnaissante, disponible, persévérante, elles font honneur à leur Dieu. Et elles sont aux premières loges lorsque l'Esprit dispense de nouvelles grâces à l'Église, au peuple des rachetés, les femmes, on peut dire, du Seigneur, sont bel et bien là. Et jusqu'à la fin, elles seront là. Et elles accompagneront les serviteurs, elles seront elles-mêmes servantes du Seigneur. Combien de témoignages de missionnaires, femmes, qui ont été là où des hommes n'étaient pas encore allés et ont fait vraiment honneur à leur Seigneur. Sans crainte, elles sont allées, elles ont annoncé la bonne nouvelle, là, dans des situations totalement dangereuses. Et ce sera encore le cas dans ces derniers temps. Et voilà, béni êtes-vous, vous, nos sœurs, qui avez été visitées par le Seigneur pour être ses servantes et ses témoins privilégiés. Amen.